Ceci est un podcast à date.
Bonjour et bienvenue au podcast Tadat. Je m'appelle Annette Schmitz et je suis du secrétariat de Tadat. Tadat est un outil développé par des partenaires internationaux de développement des capacités avec la contribution technique d'un large éventail d'experts pour aider les administrations fiscales du monde entier à devenir plus efficaces en utilisant les bonnes pratiques acceptées au niveau international. Le comité directeur de Tadat supervise le programme Tadat et est composé de contributeurs associés dont la France, l'Allemagne, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Ces partenaires de Tadat élisent un président parmi eux sur une base rotative chaque année. La Suisse préside le comité directeur depuis juin 2020 et alors que sa présidence touche à sa fin, nous nous sommes entretenus avec le représentant de la Suisse, M. Carlos Orjales. La discussion tournera autour du soutien durable de la Suisse au cadre Tadat et de la voie à suivre. Durant le cours de cet épisode, nous nous entretiendrons également avec des collègues du Burkina Faso et du Pérou. Ils nous feront part de leur expérience de collaboration avec la Suisse et de l'utilisation du cadre Tadat dans leur effort de mobilisation de recettes nationales. Et enfin, avec notre dernier invité du secteur privé, nous parlerons de la façon dont les bonnes pratiques adoptées par le cadre Tadat les ont aidés à développer des outils de soutien pour les administrations fiscales. Aujourd'hui, nous parlons avec M. Carlos Orjales. Monsieur Orjales est macroéconomiste et travaille pour le secrétariat d'État à l'économie du gouvernement suisse, ou SECO. Il occupe cette année la fonction de président du comité de direction du Tadat. Bienvenue au podcast Tadat, Carlos.
Merci beaucoup, Annette. Je vous remercie pour cette invitation. Et effectivement, comme vous le signaliez, j'ai pu, au cours de cette année, prendre en charge la présidence de ce comité directeur du Tadat. Mais il faut dire que le Tadat et moi, personnellement, c'est une longue histoire, puisque nous avons été impliqués, enfin j'ai été impliqué personnellement dans son développement depuis le tout début et peut-être profiter de cette année de présidence pour apporter un peu un témoignage personnel sur cet instrument, comment nous l'avons vu et un peu quelle est son origine.
Carlos, pourriez-vous nous parler un peu de la division de soutien macroéconomique du SECO ? Et nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste votre travail.
Tout à fait, Annette. Donc, comme vous l'avez signalé, je travaille pour le secrétariat d'État à l'économie, donc c'est le ministère de l'économie, pour faire court. Et nous avons donc dans le ministère de l'économie une division assez importante de coopération économique internationale. Donc, nous sommes une sorte de petit frère de l'Agence suisse de développement. Nous nous concentrons essentiellement sur des pays déjà un peu plus avancés normalement, des middle income countries, revenus moyens, ou des pays émergents avec lesquels souvent nous avons aussi des relations économiques importantes. La division pour laquelle je travaille est une division de soutien macroéconomique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous soutenons nos pays partenaires dans la mise en œuvre de leur politique monétaire et de leur politique fiscale. Donc, nos clients sont essentiellement des banques centrales, les ministères des Finances et les administrations fiscales. Ce sont nos principaux clients. Nous travaillons avec ces organisations, nous leur fournissons de l'assistance technique, soit bilatéralement, soit à travers des organismes internationaux, en premier lieu le Fonds monétaire international. Donc, mon travail consiste essentiellement à fournir cette assistance technique et accompagner nos pays partenaires dans le renforcement de leurs finances publiques. Pour la Suisse, c'est évidemment cette politique monétaire, cette politique fiscale, c'est vraiment au cœur de notre coopération. Nous sommes convaincus que le premier pas que les pays doivent réaliser, c'est-à-dire c'est d'avoir une maîtrise complète de leur politique monétaire et de leur politique budgétaire. Et sans cela, il y aura toujours une dépendance, il y aura toujours des difficultés. Donc, plutôt que d'intervenir dans toute une série de secteurs qui peuvent être critiques, Nous pensons qu'il faut déjà avoir cette gestion macroéconomique stable. Et on va le voir maintenant, le Tadat joue un rôle extrêmement important.
Vous avez été impliqué dans le projet Tadat depuis le tout début et vous avez participé aux discussions préliminaires qui ont abouti au développement de cette méthodologie. Pouvez-vous nous parler un peu de cette période? D'où est venue l'idée de développer le Tadat? Et quelles ont été les motivations premières?
Alors, pour vous dire, je me rappelle d'une réunion à Berlin en 2009, donc un an après la terrible crise qui nous a frappés, où nous étions assis avec un groupe de donateurs avec, disons, les mêmes opinions sur l'importance d'avoir cette stabilité macroéconomique. Nous nous sommes assis et nous nous sommes dit, tiens, il faudrait tout d'abord que nous allouions davantage de fonds pour l'assistance technique pour ces institutions clés, les ministères des Finances, les banques centrales, les administrations fiscales. Donc déjà dans un premier pas, nous avons décidé de créer des fonds thématiques au niveau du fonds monétaire pour permettre donc au fonds monétaire de donner davantage d'assistance technique à ses pays partenaires, pas uniquement, disons, cette fonction de surveillance, mais avoir vraiment une assistance technique plus large. Et dans un deuxième pas, eh bien, nous nous sommes dit, voilà, c'est bien d'accroître les revenus que nous accordons à ces programmes d'assistance technique, mais ce qu'il nous manque un peu, c'est une méthodologie, disons, pour évaluer de manière vraiment objective s'il y a du progrès. C'est-à-dire si ces programmes que nous finançons, eh bien, donnent des résultats, si ces résultats peuvent être mesurés et peuvent être présentés ensuite publiquement. Car voyez-vous, le grand problème lorsqu'on parle de fiscalité, c'est que nous avions des indicateurs, des statistiques fiscales sur des agrégats, mais finalement, toutes ces données dépendent essentiellement de la conjoncture économique. Donc, on arrivait à une situation où on pouvait finalement récompenser un pays qui n'a pas vraiment fait d'efforts pour améliorer le fonctionnement de son administration fiscale, mais qui a bénéficié d'une conjoncture économique positive et donc des chiffres qui montrent en fait que cet argent a servi à quelque chose puisque on a collecté davantage de ressources, ce qui n'est pas forcément vrai. Nous avons vu plusieurs pays qui ont fait vraiment des réformes extrêmement importantes, extrêmement valides, mais voilà, qui ont été frappés par une conjoncture négative. On a vu des taux d'imposition, enfin des recettes fiscales diminuer, et ça peut donner une mauvaise impression à une agence de coopération. Donc, ce que nous voulions, c'est vraiment une méthodologie pour mesurer à quel point une administration fiscale fait bien son travail. Et une méthodologie qui couvre tous les aspects d'une administration fiscale et qui puisse nous donner un indicateur qui soit mesurable, qui soit objectif, qui nous permette de voir si réellement il y a eu du progrès ou pas. Donc, à cette époque, nous avons soutenu fortement, avec d'autres pays donateurs, la création de ce secrétariat Tadat, mais aussi la création du secrétariat PEFA, qui est un peu le pendant du Tadat, donc pour la partie des dépenses publiques.
Pour une agence de coopération comme le SECO, quel est l'intérêt de disposer d'une méthodologie d'évaluation des administrations fiscales comme le Tadat?
Eh bien, comme nous allons le voir ensuite, et je profite pour remercier M. Caboret, Mme Rodriguez, qui viendront partager un peu leur témoignage. Le SECO, dans les pays où le SECO travaille, au Burkina Faso par exemple, nous soutenons un important projet de modernisation de la Direction générale des impôts, ou au Pérou, où nous avons également un programme d'assistance plus léger toutefois, au niveau de la SUNAT, eh bien, l'instrument pour nous est absolument crucial. C'est-à-dire, en premier lieu, lorsque nous présentons un projet de financement, ce sont donc des donations, nous devons convaincre notre Parlement, nous devons convaincre nos contribuables eux-mêmes, finalement, que l'argent est bien investi, qu'on produit des résultats. Et donc, pour cela, le Tadat, il est absolument incontournable dans notre travail. Donc, vraiment rendre compte sur l'usage de notre argent, montrer à nos contribuables que ce qu'ils sont en train, le sacrifice auquel ils sont en train de consentir, non seulement donne des résultats, mais aussi montre qu'à long terme, finalement, en rendant ces administrations fiscales soutenable financièrement, eh bien cette aide au développement finalement ne sera pas une aide infinie, mais qu'à un certain moment, eh bien nos contribuables ne devront plus se sacrifier pour fournir cette aide. Donc le premier point, c'est pour convaincre donc nos parlements et nos contribuables. Mais en second lieu, et je le dis clairement, il est extrêmement complexe sur un plan politique de lancer une réforme fiscale ambitieuse. Avec un horizon à moyen terme, souvent les administrations fiscales reçoivent une pression très forte du gouvernement pour accroître les recettes de l'année avec des mesures à extrêmement court terme. Et la force du TADAT, c'est de permettre un peu d'avoir cette vision à un peu plus long terme. Et vous voyez, quelles sont les grandes faiblesses de l'administration fiscale qui vont peut-être pas apporter des fruits tout de suite. Je parle par exemple de la procédure des appels, la procédure de service aux contribuables. Ce sont peut-être des investissements qui ne rapportent pas tout de suite, mais qui sur le long terme peuvent être beaucoup plus importants que ces petites mesures à court terme pour aller taxer encore davantage les entreprises qui sont formalisées, plutôt que de vraiment s'attaquer aux véritables problèmes qui peuvent prendre un peu plus de temps. Donc, vraiment un instrument qui permet de générer une dynamique à long terme pour une réforme solide d'une administration fiscale.
Quel bilan tirez-vous du travail effectué par le secrétariat du TADAT au cours de ces 10 dernières années?
Bon, alors le travail gigantesque, et j'aimerais ici saluer le travail inestimable du chef du secrétariat, Justin Zeck, que j'ai eu l'opportunité de connaître aussi sur le terrain, durant des évaluations TADAT sur le terrain. Il a énormément fait, mais évidemment le secrétariat, toute l'équipe de TADAT a énormément fait. En 10 ans, nous avons non seulement établi une méthodologie qui, au début, pas tout le monde était sûr qu'on pouvait développer une telle méthodologie, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de chiffres, mais qu'il soit objectif, qu'il soit evidence-based, etc., etc., etc. Donc, il y avait pas mal de scepticisme. Nous l'avons développé, cette méthodologie, nous l'avons même raffinée, nous l'avons adaptée au gouvernement aussi infranationaux, nous l'avons complétée avec peut-être des dimensions qui manquaient encore au départ, comme les droits d'assises. Donc, nous avons une méthodologie extrêmement solide. Nous avons un comité directeur, certes, mais également un comité technique qui veille aussi à la qualité de cette méthodologie. Et peut-être le plus important sur ces 10 dernières années, c'est que nous avons créé une véritable secte d'experts en administration fiscale qui ont la même, vous voyez, qui ont le même modèle, qui ont une même représentation de quelles sont les bonnes pratiques pour toutes les fonctions que doit effectuer une administration fiscale. Et ces gens maintenant, ces personnes certifiées TADAT Assessors, s'il y en a des milliers, ils sont distribués de par le monde. Et je pense que cette contribution qui est apportée via le TADAT et via toutes ces personnes formées via le TADAT est une contribution absolument énorme à la poursuite des objectifs du millénaire et des nouveaux objectifs de développement durable.
Et comment voyez-vous le futur du TADAT? Idéalement, où nous verriez-vous dans 10 ans?
Très bien, alors c'est une bonne question. Beaucoup a été fait, mais je pense qu'il y a encore un grand chemin à parcourir. Et je dirais juste peut-être 3 éléments qui, à mon avis, me paraissent absolument fondamentaux. C'est d'abord ce qu'on appelle les medium-term reform strategy, revenue, c'est-à-dire les réformes fiscales de moyen terme. C'est un outil que nous essayons aussi de développer avec le Fonds monétaire, c'est-à-dire toute une méthodologie pour ensuite mettre en œuvre ces réformes avec une vision à moyen terme. Donc, ma vision, c'est de voir ce TADAT intégré à ces MTRS, parce que je pense que maintenant, on est très fort dans l'assessment, il faut maintenant être fort aussi dans les réformes. L'autre aspect aussi que j'aimerais bien voir ces 10 prochaines années, c'est davantage de pays dits développés, pays de l'OCDE qui utilisent la méthodologie TADAT. Pour l'instant, nous avons nos amis nordiques qui ont utilisé cette méthodologie. Cette méthodologie est adaptée pour n'importe quel type de pays. C'est pas une méthodologie uniquement réservée à certains pays en développement. Donc, mon vœu le plus cher, c'est que ce TADAT devienne vraiment un outil d'évaluation pour toutes les administrations fiscales, OECD inclus. Et finalement, si je pouvais faire un troisième vœu, ce serait de peut-être éviter une multiplication de différents diagnostics au niveau de différentes organisations, plutôt que d'avoir un diagnostic développé par organisation et même par donateur, que tout le monde joigne les efforts pour faire vraiment le TADAT le standard, l'unique standard pour évaluer donc la performance des administrations fiscales.
Merci beaucoup, Carlos. C'était un plaisir de parler avec vous.
Merci.
Restez avec nous pour la deuxième partie de cet épisode de podcast TADAT. Nous parlerons avec Hamadou Kabore de l'expérience du Burkina Faso avec la méthodologie TADAT.
Le podcast TADAT est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast TADAT sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast@tadat.org.
TADAT est un engagement collaboratif des partenaires suivants.
L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.
Le podcast du TADAT tient à remercier à Philippe Nadvesnik pour sa reprise de Schweizer Grüße. Pour écouter le morceau complet, veuillez visiter le site accordionmaniac.com. À la prochaine!